France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Le feu est parti le 5 août vers 16h15 d'un sentier sauvage à 10 mètres au-dessus de la route départementale 212 à proximité du village de Ribaute dans l'Aude, précise le magazine Reporter. L'incendie, on le sait, a fait un mort, deux blessés et ravagé 17 000 hectares. Une certaine Églantine, citée par plusieurs médias, a même filmé depuis sa maison la zone de départ. Elle est catégorique, ça n'est pas un mégot. En vérité, on n'en sait rien, mais il est en revanche certain aujourd'hui que toute cause naturelle est exclue. L'origine humaine de l'incendie ne fait guère de doute. Qu'il s'agit d'un acte criminel est encore, par contre, une hypothèse non vérifiée, mais elle est dans le bureau du procureur de la République de Montpellier. Il faudra un jour qu'on consacre un épisode des Pieds sur Terre à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un incendiaire ou d'un pyromane, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, comme cette dame de 76 ans arrêtée en août à Castelmayran dans le Tarn-et-Garonne, qui a reconnu être à l'origine d'au moins 12 départs de feu sur sa commune depuis 2022. Le journal La Croix cite cette enflammée qui aurait expliqué au procureur, je cite, « avoir agi de la sorte, notamment par frustration à l'égard de personnes de la localité ». Je précise que cette dame n'a rien à voir avec l'incendie de l'Aude de cet été. En attendant cet épisode à venir, voici tout de suite, en écho lointain à la tragédie donc que nous avons vécue cet été, trois histoires d'incendie étonnantes, résilientes ou héroïques par Alice Milot et Stéphanie Thomas.
Je m'appelle Ginette, j'ai 83 ans, je suis la patronne d'Abreuvoir. C'est un beau bar, il a la vue sur la montagne du côté bas. Et puis la vue sur le lac. Moi, je suis né à Thonon-les-Bains. Mes parents sont natifs de Châtel. Ils étaient agriculteurs. Il y avait un cheval, 12 vaches, des petits veaux, les cochons, la truie. Moi, j'ai appris petite à faire le fromage, on était à la montagne. J'avais 8 ans, je traisais déjà 6 vaches, les plus tendres, les toutes tendres. Et après l'école, j'ai commencé à travailler. Je suis parti chez Marinette. Chez Marinette, le bar, qui est au milieu du village. J'avais 15-16 ans. J'ai resté 5 ans. Le soir, on fermait à 2-3 heures du mat. Il n'y avait pas d'heure à l'époque. Et en haut, le matin, pour 7 heures, parce qu'ils faisaient les remontées mécaniques, le Super Châtel. Je dormais 2 heures, 3 heures. Après, j'ai passé mon CAP par correspondance. Et après, j'ai été chez Crépy, 2 ans. T'avais 60, 70 clients. Ils avaient mangé, tu détournais les tables pour qu'il y ait la place pour danser. Ils finissaient à 4 heures le matin, 4h30, 5h. Tu faisais le ménage, tu remettais les tables comme il faut, tu préparais les déjeuners. Tu mettais pas les pieds au lit le samedi soir. Le dimanche, je te garantis que dimanche soir, tu dormais bien. Aïe, aïe, aïe. Moi, je gagnais 10 francs par jour, 300 francs par mois. Tu fais garder tes gamins, tu loues un loyer, tu te retrouves à 90 ans, toujours en n'ayant pas de voiture, tu peux rien t'acheter, quoi, même pas des habits. Donc, j'ai dit, je vais faire un bar. Je me suis marié, mais mon mari, il ne fallait pas lui parler du bar. Le bar, je sais faire, j'ai fait partout chez les autres. Je sais faire la cuisine, je ne suis pas perdu, je vais m'en sortir. Puis les gamins s'élèveront avec moi. Et puis j'ai ouvert ici, j'ai commencé, j'ai ouvert le 26 décembre, on n'a pas pu ouvrir avant. Pas un chat jusqu'au 31, parce qu'alors ici il n'y avait pas de lumière, il n'y avait point de maison, il n'y avait rien, il y avait la chapelle.
Parce qu'on est au bout du village là, on est vraiment à l'extrémité de Châtel, et après c'est la Suisse.
Il y a la Châtel ici, la Suisse là-bas, donc voilà. Et à minuit ça a démarré, 31 ça a démarré à minuit. Ah là là, un monde, un monde, un monde. Et puis ça a duré tous les jours, c'était bourré de monde. L'Abreuvoir, ça a été une mine d'or. Je faisais 80-100 ouvriers tous les midis. Le dimanche, t'avais une dizaine d'accordéons. C'est l'endroit de l'accordéon ici. C'est génial. Bourré de monde toute la journée. Et le 8 août, eh ben, ça a brûlé. Nous, on travaillait ici, on avait mis nos couverts, 22 qui mangeaient, c'était tout prêt. Et j'ai un gamin qui vient à la porte là. Il me dit, madame, madame, ça brûle chez vous. Puis je dis à mon serveur, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Puis on continue à faire nos plats. On sentait rien, la machine à jambon tournait. Ça n'a pas disjoncté. 10 minutes après, ça arrive deux bonhommes que je connais qui arrivent. Ils me disent, Ginette, Ginette, à la cuisine. Ça brûle chez toi, ça brûle vite l'instincteur, mais ça brûle où? L'instincteur. Il prend l'instincteur, il court dans l'escalier, il redescend. Il me dit, non, ta maison, elle brûle, va-t'en, va-t'en, faut te sauver. Non, je pars pas, je pars pas, faut te sauver. Non, je sors pas. Donc, ils m'ont pris tous les deux, ils m'ont pas écouté, ils m'ont pris tous les deux par sous les bras à ça du sol pour me mener dehors. Et puis mon serveur a pris 260 euros qu'il y avait dans la caisse, mon sac à main, mes médailles dedans. Et puis j'étais dehors, c'est arrivé ma fille une demi-heure après tout cassé. Elle me dit, oh là là, j'ai eu peur, je croyais que t'étais dans les flammes. Dans ma chambre, ça a pris des flammes de 10 mètres de haut. Ça a brûlé jusqu'à 2 heures du matin, toujours dans ma chambre. Et je suis restée à la voiture avec ma fille là-dessous jusqu'à 2 heures du matin, à regarder ce feu. Tu penses à rien, tu t'es abruti. Mon abreuvoir, ah non, tout sauf ça. Les pompiers qui sont arrivés, et il y en a un qui s'est jeté dans les flammes, faire un trou dans le toit, ils n'arrivaient pas à arrêter le feu. Ils n'ont jamais arrivé à les arrêter, les pompiers, pourtant ils étaient costauds. Hein. Ça cramait de bon cœur. Et tout a cramé, tout. Tous les souvenirs, tout. En haut, j'avais une brocante en haut. Moi, j'adore les vieux trucs. J'avais ma machine à battre le beurre à la main, qu'on tournait. J'avais le grilleur à café, j'avais la fileuse à laine. La vaisselle, je t'explique pas, toute la belle vaisselle. Tout passé, tout, il y a tout qui est passé. Quoi. Ils sont venus avec les conteneurs, ramasser tout et dans les conteneurs. C'est horrible à voir, c'est horrible. Horrible, puis alors vraiment, c'était mon cœur, hein, l'abreuvoir. Il n'y avait plus rien du tout. C'était tout vide. Tu rentrais dedans, ça résonnait, c'était tout vide. Je disais toujours tout, sauf mon abreuvoir. Quand j'ai acheté le terrain, en 66, j'avais 22 ans et j'avais pas un centime. Et j'allais emprunter les sous auprès des gens. Des particuliers comme vous, vous me prêtez un papier en blanc. Et je rendais, on déchirait ce papier. Quand je retournais, on faisait un papier. On était de famille de bosseurs, ils savaient que je rentrais, quoi. Puis j'étais belle, 42 kilos, j'étais belle quand j'avais 20 ans. Je courais comme un lapin. Et c'est moi qui ai fait le manœuvre ici. Hein. Je l'ai construit pierre à pierre, brique à brique, cet abreuvoir. C'était très dur, hein. J'étais chez ma fille pendant un mois et demi et je voulais pas rester, j'aime pas, faut laisser les ménages tranquilles. Alors j'ai pris un appartement, j'étais très très bien, 80 mètres carrés, mais seulement, j'ai jamais été en appart de ma vie moi, j'étais une bête sauvage. T'as peur, tu vois des ombres dans la glace, t'entends des bruits, mais y a personne, y a rien, ça existe pas. Puis alors 4h30 quand c'est nuit, le premier automne, je te jure, je dis, j'ai envie de me jeter du balcon, hein. Puis je me dis non quand même. Mais je garantis que j'ai eu des idées. Trop dur. Mais c'est passé. C'est reparti comme en 14. J'ai bataillé tout le temps pour revenir. Je disais que je referais l'abreuvoir. J'ai toujours voulu refaire et reprendre l'abreuvoir. Je veux mourir là-dedans, moi je mourrai à l'abreuvoir. Ma fille m'a dit non, mais moi j'ai dit oui. Parce qu'elle me dit que j'ai plus un âge à être à l'abreuvoir. Mais moi, me reposer, je suis pas faite pour être... regarder le travail. Alors, on a reconstruit. Ma fille s'en est occupée, et puis elle aimait bien. On n'a pas les mêmes couleurs, nous. Je trouve que le plafond est un peu blanc, mais bon, c'est neuf quand même. Moi, j'ai choisi le vert, le parterre, et puis mon bar rose. Mais bon, dans l'ensemble, c'est bon, je m'y fais. faut s'y faire. Donc, on a réouvert l'abreuvoir qui a brûlé le 19 avril 2025. À 16 heures du soir, ils avaient à boire ce qu'ils voulaient. Et puis, on leur a fait une raclette gratuite le soir vers, à partir de 20 heures. T'as faim quand tu bois. Jamais je m'attendais à ça. Je m'attendais du monde, mais pas à ce point-là. J'ai le voisin là-dessous avec sa femme. Il m'a dit, je suis allé trois fois, j'ai jamais arrivé à rentrer. J'avais la queue jusqu'en bas, je pouvais plus passer. Je prenais mes verres, je tirais ma bière, je remettais le verre, je tirais ma bière, je remettais le verre, et ainsi de suite. Je ne sais pas qu'il y avait tellement que je tirais des bières, j'ai fait que ça. Aïe, 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 ça a été phénoménal. Mais tout a changé. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus de pierre, il n'y a plus rien. C'est complètement différent. Les tables qui ont resté, les banquettes, puis mon jeu de boxe. Mon jeu de boxe, je l'ai envoyé réparer, il est revenu il y a une semaine. Il avait pris l'eau, il n'a pas aimé l'eau. Les accordéons aussi ont été sauvés, trois accordéons. Enfin bon, c'est passé, balayé, oublié. Je me fous du passé. J'ai repris ma vie. C'est ma vie, moi, derrière mon bar. Je pense que les clients qui viennent, ils aiment bien voir quelqu'un de propre, de gai, quoi. Je trouve que tu gagnes ta vie en... Tu travailles avec... en gaieté. T'as toujours une connerie à raconter, une histoire de cul à raconter, l'accordéon, quelqu'un qui chante, une partie de belote, une partie de baby. J'ai besoin de sous, forcément. Mais j'adore mes clients. Je les aime du fond du cœur. Cette journée même. Après, avec les jeunes, les gamins qui reprennent la relève. Qu'est-ce qu'on aime mieux chez toi qu'ailleurs ? Ils adorent ça. Il y a toujours un mot pour rire. On parle pas des gens, nous, ici. J'ai horreur de ça. Avant de parler du voisin, balaye devant ta porte. Ma mère, je t'ai pris comme ça, moi. Hein. Maman, t'as vu la dame là-bas ? Ouais, ben va devant ta porte balayer. T'as vu comme c'est sale ? T'auras pas le temps de voir la dame qui est vilaine. Donc, voilà. Si je peux plus marcher, si je peux plus aller, ben j'arrêterai. Pour l'instant, tout va bien. Tu peux faire 10 tonneaux dans la montagne en face, t'auras rien du tout. Puis là, tu passes la porte, tu te prends dans le bar de la porte, t'es mort devant. Moi, je chante beaucoup. Ça chante beaucoup ici. Ben, celle qui va bien maintenant, c'est qu'il fait bon vivre quand on revient chez soi. Que l'on revoit le toit où nous attend la joie de vivre. Les amis d'autrefois, bonjour, me revoilà. Je fais un couplet.
France Culture, les pieds sur terre.
Ici, nous sommes à la caserne des pompiers de Warem, une petite ville dans un milieu rural près de Liège. Je m'appelle Michael Robert, j'ai 40 ans et je suis pompier professionnel à la zone de secours SB. Donc je suis sergent à la zone de secours, mais je fais bien d'autres fonctions. Je suis porte-parole à la zone, je m'occupe du recrutement, je suis conseiller technique de l'Animal Rescue Team, donc l'équipe animalière, et je vais sur le terrain à la fois pour les humains et pour les animaux. Cette envie de devenir pompier vient de mon père, parce qu'on est pompier de père en fils. Mon papa est bientôt à la retraite pompier, mon petit frère est pompier également, et donc j'ai été bercé par les sirènes et les récits de mon papa. Et voilà, j'ai suivi la voie de la famille et je ne regrette absolument pas. J'ai déjà eu des blessures dans ma carrière. Au tout début de ma carrière, un plancher d'une habitation a cédé. Je suis passé à travers l'étage de l'habitation et j'ai été enseveli en partie, ce qui m'a valu d'avoir des petites migraines à vie. En termes de grosses, grosses, grosses interventions. La dernière qu'on a eue, c'est la fameuse incendie de la tour Kennedy à Liège. Donc c'était un peu, pour ceux qui aiment les films, la tour infernale de Steve McQueen. Ben nous, on a eu notre tour infernale, malheureusement, à Liège aussi, où il y a eu, il faut quand même reconnaître, des pertes humaines. une tour de plus de 30 étages qui était en feu à Liège, avec plus ou moins 250 résidents à évacuer, à sauver. Les pompiers se sont battus pendant quasiment 24 heures, parce qu'il y a eu d'abord la première partie, c'était les humains, et puis alors on a eu la chance, c'était une première en Belgique, on a pris en charge aussi avec l'unité les animaux dans cette tour en feu. Il y a quelques années, en région liégeoise, j'ai été appelé sur un incendie où à la base, mes collègues de Liège m'annoncent qu'il y a 200 perroquets qui ont péri dans un incendie. J'arrive sur place, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, les animaux sont malheureusement décédés dans l'incendie. C'était une maison normale, tout à fait normale, dans une rue vraiment en centre-ville. Le propriétaire des lieux faisait de l'élevage et de la reproduction de perroquets, mais pas que. Au moment de cette intervention, je suis alerté par les services judiciaires et de police qui disent « Attention, on nous annonce qu'il y a peut-être des caches secrètes avec des cages en sous-sol ». Avec du trafic animalier, on nous parle de hyènes, on nous parle de cervales, de fauves. On commence à la perquisition avec les autorités de police. On découvre cette cache secrète dans un sous-sol qui était barricadé, vraiment comme dans les films, comme dans la science-fiction. Et quand on arrive au premier étage avec mon équipe, parce qu'on sécurisait les services de la police, on ne savait pas sur quoi on allait tomber, nous sommes tombés nez à nez avec un primate, un babouin, qui était sur le palier près de la chambre du propriétaire. Et l'animal était là, un peu apeuré, parce qu'il voilà, il est pas habitué à avoir autant de monde dans son espace. Et sa cage était toute petite. Et donc, on est intervenu, on a capturé l'animal avec des vétérinaires urgentistes. Il était dans la cage, heureusement pour nous, parce qu'il faut savoir qu'un primate a une force décuplée. Il peut vous arracher d'un seul coup de patte un œil, une joue, un membre. C'est un animal qui fait, quand il est debout, une cinquantaine de centimètres, mais qui a une puissance incroyable. On dit généralement que chez les primates, ils ont une force de l'homme fois 5. Hein. Donc ça peut être très violent s'ils ont un comportement de défense ou de peur. Et le primate est un animal qui est le plus grand vecteur de risque, justement, de contamination de maladie. Donc toutes les précautions ont été prises. Et puis après, nous l'avons sous escorte de police amené dans un centre parc zoologique en Belgique, près de Genk. Et puis après, l'animal a fini ses jours dans un sanctuaire pour primates en Afrique. Donc on est heureux. J'ai réussi à développer avec les années que lorsqu'on m'appelle pour un animal un peu, je vais dire, extravagant, je prends les choses au sérieux parce que j'ai vu de tout. J'ai déjà vu dans les quelques années de ma carrière, j'ai vu des fauves, j'ai vu des mygales, des tarentules, des espèces venimeuses, des caïmans, des alligators, des tigres, même une panthère noire. Donc on pourrait être très bien appelé sur un incendie. Et lorsqu'on descend dans la cave, on se retrouve au milieu d'une trentaine de terrariums avec des tarentules, des araignées, des serpents. Et donc voilà, il faut faire face à ça. J'ai déjà eu peur je me suis retrouvé avec à Liège il y a un an ou deux. C'est un serpent qui a survécu au transport maritime et qui est arrivé par péniche dans une cargaison de pots de peinture à Liège. Et dedans, il y avait des serpents, dont un qui a survécu, qui est une des espèces, une équis, qui venait du Moyen-Orient. C'est une espèce indigène qui s'est invitée dans la cargaison. Seulement, ce serpent fait entre 30 et 40 000 morts d'humains par an au niveau mondial. On n'avait pas de sérum ni rien. Et on a dû intervenir sur ce serpent qui s'est retrouvé à Liège, en Belgique, par des cargaisons. L'intervention qui m'a marqué le plus par rapport à l'étendue de l'intervention, c'est les inondations de 2021 qui a touché la Belgique, qui a été très meurtrière. Pendant 9 jours, notre unité a été intervenue pour sauver les animaux. C'était une grande première. Et on a retrouvé des cadavres de chevaux dans les arbres. On a retrouvé des vaches dans des cours de maison emportées par le courant. On a sauvé une vache qui a fait 28 kilomètres emportée par le courant et retrouvée en vie 10 jours après les inondations sur le bord d'une rive où on l'a remontée en ravin avec les pompiers du Grimpe. Parisienne, elle s'appelait Parisienne. Nommée après une arrivée du Tour de France par ses propriétaires, pour la petite anecdote. Il y a des gens qui avaient des animaux de compagnie morts dans leur maison, avec le mazout, avec le soleil, les boues. Il y a des gens qui recherchaient leurs animaux le long des rives. Ils avaient perdu toute leur maison, ça montre l'importance de l'animal, et ils faisaient des heures, jour et nuit, pour retrouver leurs animaux. Et donc nous, on était à plusieurs unités comme ça, et on a contribué à sauver plus ou moins 180 animaux, plus ou moins. j'essaie de ne pas revenir à la maison avec mes interventions humaines, parce que voilà, c'est quand même parfois lourd, que voilà, il faut garder pour soi et en parler entre collègues, mais il ne faut pas ramener ça à la maison. Par contre, la partie animalière, je suis toujours fier parce qu'il n'y a jamais de problème. Ça émerveille un peu la famille et ils sont fiers de ce qu'on fait, de ce que j'ai mis en place.
Je m'appelle Laurence, j'ai 52 ans, je suis maman de 4 enfants, mamie de 4 petits-enfants. Mes deux parents avaient la particularité d'avoir une maison qui était sur la frontière belge. J'ai fait donc mes études, une partie en Belgique, une partie en France, et puis étant toute jeune, j'ai voulu devenir militaire. Toute petite, hein, j'ai toujours rêvé d'être un oiseau, être libre. Donc le parachutisme, pour moi, c'était une évidence. Alors, une parachutiste militaire, on apprend tout ce qui est le combat, l'armement, savoir se débrouiller en milieu hostile. Et puis, on fait énormément de sport. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire un saut en parachute est égal à 10 séances chez un psy. Parce que là-haut, on est seul, seul au monde avec le bruit du vent dans la voile et puis les oiseaux qui chantent. Il y a 10 ans de ça, je suis allée en vacances en Tunisie. Et puis, j'ai une ampoule qui a claqué. Je suis montée sur une chaise, la chaise a basculé. Et puis, je suis mal retombée et je me suis cassée la colonne vertébrale. Donc, j'ai une section de moelle osseuse qui fait que je suis paraplégique. Par un accident tout bête. Alors que je saute quand même à 4200 mètres le plus souvent et que je ne me suis jamais cassé un ongle. J'ai démissionné de l'armée... suite à une grosse dépression. Et je suis juge fédérale en parachutisme depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire que je suis habilitée à juger les compétitions de parachutisme. J'habitais à Épinay-sous-Sénart, dans un appartement adapté. Je vivais donc toute seule, je vivais ma vie tranquille jusqu'au 28 mars 2025, où là, à 6 heures du matin, j'ai été réveillée par des morceaux de verre, en fait, qui claquaient. Donc, dans mon esprit, c'était un cambriolage. Première chose que j'ai eue dans la tête, c'était, je sors de mon lit et je vais vite les chasser de chez moi. Je crois que j'ai quand même la faculté pour me défendre, même sur un fauteuil roulant. J'ai pratiqué le kung-fu, la boxe thaï, donc je veux dire, pour moi, c'était logique de les attraper puis de les sortir de chez moi. Quand je suis arrivée dans le salon, les cadres avec mes diplômes qui étaient au mur étaient en train de claquer par la chaleur. Un incendie qui était parti apparemment de mon ordinateur, donc de mon bureau. Je me suis retrouvée enfermée par les flammes jusqu'au plafond en fait. Hein. J'habitais un immeuble de 4 étages. La première chose que je me suis dit en tête, c'est « Mais dans l'immeuble, il y a des gens. » J'ai regardé ma montre, j'ai dit « Oh, il est 6 heures du matin, les gens, ils dorment, quoi. Donc, il faut absolument faire sortir tout le monde. » J'ai téléphoné aux pompiers. Et puis, je suis sortie et j'ai sonné chez mon voisin d'en face pour lui dire de sortir. Et j'ai pris l'ascenseur, je suis partie réveiller tout le monde. J'ai un trou noir, mais d'après ce qu'on m'a raconté, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ben, sors, je m'en occupe. » Puis après, j'étais en bas et j'hurlais « sortez, sortez, sortez ». J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir sortir, mais j'ai tout perdu. Toutes mes médailles sportives, je les ai plus. J'ai été obligée de refaire de nouveau le deuil de mon ancienne vie, puisqu'en fait, je l'ai fait une première fois quand j'ai eu mon accident. Et il faut savoir que l'assurance paye quelques jours d'hôtel, mais c'est pas beaucoup. Et puis... mon beau-fils, qui m'a hébergé quelques jours, il est au 4e étage sans ascenseur. Donc, pour moi, monter, descendre... Alors, j'avais la joie d'être avec mes petits-enfants, mais c'était trop compliqué, tout. Bon, après, c'est vrai que j'ai des amis, j'aurais pu, mais je voulais pas embêter, quoi. Donc, j'ai préféré dormir dans ma voiture. dans laquelle, quand je vais en compétition, je pars souvent plus tôt, ce qui me permet de visiter un peu et de dormir. J'ai l'habitude de dormir dedans, j'ai mes caisses, c'est un peu l'esprit toujours militaire. Mes jambes, c'est pas un problème, je les sens pas. Donc je reste à mon volant et j'allonge mon siège. Je prends mon duvet, j'ai mes rideaux aimantés. J'occulte tout et puis je ferme de l'intérieur et je dors. Voilà, les soupes instantanées, c'est pas mal le soir. En plus, ça permet de garder la ligne. Et puis la journée, on s'achète une baguette, on s'achète des trucs. Et puis j'ai mon petit réchaud à gaz. Les toilettes, on va dans des lieux où il y a des toilettes publiques. Et puis pour se doucher, on va sur les aires d'autoroute et puis on fait comme les routiers, on se prend une douche. La solidarité s'est organisée très vite. Donc, pour récupérer un peu d'argent, j'ai l'Union nationale des parachutistes qui m'a contactée, l'Entraide Para, la Fédération française de parachutisme. Et là, la chaîne s'est mise en place. Et puis, à côté de ça, j'ai quand même gagné l'amour. Brahim, donc, on se connaissait depuis longtemps, on était amis. Et puis, quand il y a eu l'incendie, on s'est encore plus rapprochés, puisque Brahim, direct, m'a dit « Moi, j'ai eu peur pour toi et je veux plus qu'il t'arrive quelque chose. Tu dors dans ta voiture, mais moi, je vais dormir avec toi parce que je veux que tu sois en sécurité. Moi, je veux t'aider, je veux être avec toi. » Il m'a un peu déclaré sa flamme, en fait. Et puis après, il m'a demandé simplement si j'acceptais de l'épouser. Donc, c'est fait. On s'est mariés le 16 juin 2025. Notre voyage de noces, on le fait tous les jours, quand on est ensemble. Moi, j'ai toujours dit, depuis mon divorce, donc qui date quand même d'un certain temps, j'avais toujours dit, je ne me remettrai jamais en couple, je ne me remarierai jamais. Et j'avais surtout dit, jamais je me mettrais avec une personne handicapée, quoi. Ça, c'était pour moi inconcevable. Mais faut savoir que Brahim est amputé tibial, donc il a la jambe gauche qui est amputée en dessous du genou, et il pratique le football sans prothèse avec des béquilles. Donc il est handicapé, et puis c'est le bonheur.
There for you if it all crumbles down, and I will be there for you when your feet touch the ground, and I'll clear the earth for you if you need the stars to dream, and I'll make a flame for you. Keep your spirit clean. And my angel, mystery angel, my angel, my mystery angel.
C'était Face aux Flammes, un reportage de Stéphanie Thomas et Alice Milo, réalisé par Anne-Laure Chanel, Anne de Pelchin et Eric Lancien. La technique, Ludovic Cogé, Marie-Claire Oumabadi. Merci à Ginette, à Laurence et à Michael. Attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.